Il y a quelques semaines, nous avions regardé l'histoire de ces gens qui avaient été déportés à Babylone et qui avaient à cœur de construire la Nouvelle Jérusalem. Ils étaient peu nombreux par rapport au groupe initial qui était déporté à Babylone, mais à la fin de cet exil, ils avaient à cœur de construire la Nouvelle Jérusalem. Cette idée avait bien entendu une grande perspective pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes invités, nous aussi aujourd'hui, à construire la Nouvelle Jérusalem, l'Église que Jésus vient rechercher bientôt. Mais tous ne sont pas retournés à Jérusalem pour construire cette ville, reconstruire cette ville qui était en ruine. L'essentiel, le plus grand nombre d'entre eux, sont restés en Babylonie. J'aimerais aujourd'hui regarder avec vous ce qui est arrivé avec ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas rentrés, ceux qui n'ont pas choisi de faire partie de ce reste au moment où Dieu a ouvert la porte pour leur retour dans la terre promise. Dans le livre d'Esther, nous avons là l'histoire de ceux qui précisément ont choisi de rester dans Babylone. Ils ont continué à jouir de ce que Babylone pouvait leur offrir, mais en réalité, ils étaient toujours en exil. Cette situation de l'exil est particulière parce qu'elle ressemble à bien des égards à la situation que nous vivons aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui se sent en exil. Il n'est pas dans sa maison, il n'est pas chez lui. Il attend de pouvoir retrouver la terre promise. Si bien que les situations rencontrées par ces exilés se rapprochent à bien des égards des situations que nous rencontrons nous aussi. Leur peur, leurs doutes, leurs forces, leurs faiblesses, leurs espérances, leur délivrance ressemblent étrangement aux nôtres aujourd'hui aussi. Esther, Mardochée, les héros de l'histoire du livre d'Esther, ils sont comme les gens de ce peuple, de leur peuple qui sont restés à Babylone. Dans une situation ambiguë, ils sont des exilés. Et dans un sens, ils essayent de se faire oublier. Mais ils essayent cependant de rester qui ils sont. Ils essayent de se cacher dans l'anonymat, mais cependant, ils essayent de garder leur identité. Ils ne vont pas dire qu'ils sont juifs. Et cependant, on doit constater qu'il y a une certaine intégration, une certaine assimilation de ce peuple juif exilé à la Babylonie, où ils se trouvent déjà depuis de nombreuses années maintenant. D'ailleurs, le nom d'Esther et Mardochée trahit déjà cette assimilation à la culture locale. Esther vient du nom de la déesse Ishtar, étoile, et Mardochée vient du nom du dieu Marduk. Ils avaient donc non plus des noms bibliques, mais des noms locaux. Et puis, ils étaient prêts à se marier aussi avec les Babyloniens, ce que la loi ne permettait pas. Ils avaient donc, au fur et à mesure du temps, développé une certaine adaptation à leur environnement, à l'environnement babylonien où ils étaient, avec cette sorte d'ambiguïté de vouloir rester ce que l'on est sans vouloir le dire. Et il est vrai que nous ressemblons à ces gens du passé. Notre situation ressemble beaucoup à la leur. Nous sommes aussi des exilés, nous sommes dans un monde particulier et il faut admettre que souvent, c'est l'épreuve et la difficulté qui permet de savoir que celui-ci, celui-là, celle-ci est différent du reste. C'est la difficulté qui va faire ressortir les différences fondamentales, qui va faire ressortir notre appartenance à Dieu et le désir de le faire savoir. Le livre d'Esther est un livre curieux. C'est le seul livre des Écritures où le nom de Dieu ne se trouve même pas inscrit. Et c'est curieux que la parole de Dieu contienne un livre où le nom de Dieu n'est pas. D'ailleurs, beaucoup se sont demandé s'il fallait garder le livre d'Esther dans le canon des Écritures pour cette raison. Cette situation curieuse ressemble à la situation des héros de cette histoire. Hadessa, la cachée, va devenir Esther, l'étoile que tout le monde va voir. Mardochée, ce juif qui est à la porte, qui est personne, va devenir le premier ministre en vue de tout le monde. Ces gens qui sont dans l'anonymat, qui sont cachés, qui sont dans l'exil, ce peuple en exil semble tout d'un coup vivre aussi l'exil de la parole. L'exil de la parole de Dieu, comme le dirait André Néer dans son livre où il parle de la parole, mais exilé, d'un Dieu présent, mais absent, d'un Dieu qui est là, mais qui ne parle pas. On a l'impression que l'exil de la parole dans ce livre est directement lié à l'état d'esprit d'exilé de ceux qui sont là et qui en réalité ne veulent pas être vraiment des porte-parole de la parole de Dieu. Ils se cachent sans se cacher, ils bénéficient de la Babylonie, ils veulent garder leur identité. On dirait aujourd'hui qu'ils sont assis entre deux chaises. Ainsi, l'exil de la parole, le silence de Dieu dans ce livre est impressionnant parce qu'il est aussi parole de Dieu. Ce silence de Dieu n'est pas nouveau, on le connaît par ailleurs dans les Écritures. C'est le silence que Moïse rencontre et il se rend compte que là, précisément, se trouve l'Éternel. C'est le silence de Job qui crie et qui dit à Dieu, « Seigneur, tu es cruel contre moi, tu ne me réponds pas. » le silence de tous ceux qui, dans la souffrance, attendent la réponse de Dieu et ne l'ont pas. Le silence de tous ceux qui, dans le peuple de Dieu d'aujourd'hui, ont rencontré l'épreuve et la persécution et n'ont pas vu la délivrance. Le silence de Dieu, l'exil de la parole. Où est Dieu alors? Lorsque Dieu semble absent, on dirait cependant que Dieu, par l'exil de sa parole, est véritablement absent. L'est-il vraiment? Le livre d'Esther nous montre qu'au travers des circonstances, l'exil de la parole ne veut pas dire l'absence de Dieu. Cette histoire d'Esther est encore curieuse pour bien d'autres points. Par exemple, la notion du miracle. Lorsque nous pensons à un miracle, nous pensons à quelque chose d'extraordinaire, nous pensons à quelque chose de surnaturel. Le miracle pour nous, c'est la résurrection de quelqu'un. C'est le feu qui descend du ciel. Le miracle, c'est la mer rouge qui s'ouvre, c'est le Jourdain qui s'assèche. Pour nous, le miracle, c'est la manne qui tombe du ciel. Et cependant, dans le livre d'Esther, le miracle n'est pas du surnaturel. Il prend une autre forme. Cependant, l'action de Dieu est claire. Regardez dans le livre d'Esther au chapitre 4, ce verset que nous connaissons bien et qui indique clairement l'état d'esprit avec lequel cette situation est abordée. C'est Mardochée qui parle à Esther au chapitre 4 de ce livre, verset 14. « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Un miracle? Mais où est-il le miracle? Nous pensons à un miracle comme du surnaturel, et cependant, dans les Écritures, dans ce livre-là, comme dans d'autres événements d'ailleurs, le miracle apparaît en réalité dans des événements du quotidien que nous n'appellerions pas un miracle, dans des événements tout à fait banals, dans le développement habituel des choses. En réalité, le miracle dans ce livre, il est dans l'enchaînement des événements, dans le concours des circonstances, qui semblent être le quotidien, le normal, mais qui sont en réalité l'action de Dieu en son temps, le temps de Dieu et le temps de l'homme. Voilà ce qui va faire toute la différence. Il faut une nouvelle reine, parce que l'ancienne reine était insoumise. Alors on va chercher les plus jolies filles du pays, on va faire le concours de Miss Perse, et on va faire défiler toutes les Miss Perse devant le roi Assuérus, qui va finalement faire son choix. Il va prendre Esther, la belle Esther. Pendant ce temps-là, une autre histoire. C'est un vrai film. Mardochée, à la porte, refuse de s'incliner très bas devant M. Haman, Premier ministre, qui décide dans sa tête non pas de faire payer cette irrévérence à cet homme-là seul, mais à tout son peuple, parce que Mardochée est juif. Alors il prépare son coup, et il va s'arranger pour que ce roi, qui est en fait plus occupé par ses femmes et ses affaires que par les affaires du royaume, signe un décret selon lequel un tel jour, un jour marqué, on pourra éliminer tous les juifs. La chose est signée, signature du roi des Mèdes et des Perses. Esther est au courant, mais elle est juive, elle aussi. Alors, elle va user de sa situation privilégiée pour faire connaître au roi Assuérus quel est le réel plan de Haman, c'est-à-dire faire périr son peuple à elle, elle, reine du pays, reine de l'Empire, la préférée du roi. Et Haman est dévoilé. Lui qui voulait faire mourir Mardochée, qui avait déjà fait dresser un gibet pour le pendre haut et court, eh bien, devant la dénonciation, on va dire, mais enfin, ce gibet, il pourrait très bien l'utiliser, pourquoi pas l'inaugurer, n'est-ce pas ? Haman, pendu. Et puis, le roi va chercher à savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Il ne peut dormir, vous connaissez l'histoire. Il découvre que Mardochée l'a délivré d'un complot. Et c'est lui qui va être honoré. Honoré devant tous. Finalement, c'est Mardochée qui sera premier ministre. Et puis, le jour dit où les Juifs pouvaient être exterminés, curieusement, grâce à l'intervention d'Esther, c'est l'inverse qui va se passer. Des milliers de Perses qui s'étaient opposés à eux vont périr ce jour-là. Alors, dans cette histoire, on peut faire un film, si vous voulez, mais le miracle, où est-il ? Où est-il le miracle ? Le feu n'est pas tombé du ciel, la mer ne s'est pas ouverte, le sol ne s'est pas écarté pour engloutir les ennemis. Où sont les miracles ? Et cependant, ils sont clairs. Parce qu'à la fin du livre, au chapitre 9, il nous est clairement dit que cette situation va donner lieu à une célébration. Au verset 32, chapitre 9, il est dit « Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut écrit dans le livre. » Une fête s'est ajoutée à celle du calendrier juif parce qu'il y avait eu la délivrance de l'Éternel. Mais le miracle n'a pas été époustouflant. Il n'a pas été comme le miracle d'Élie, il n'a pas été comme le miracle de Jonas. Le miracle s'est fait d'une façon insidieuse, dans le concours des circonstances du quotidien et qui ont produit la délivrance du peuple de Dieu. Cette fête, d'ailleurs, était une fête joyeuse, une fête de délivrance, une fête un peu comme la fête où l'on chante le cantique de l'agneau parce qu'on a été délivré de l'ennemi. Mais curieusement, le nom de cette fête va lui jouer un vilain tour. Cette fête se nomme Yom Kippourim. Mais ce nom Yom Kippourim ressemble trop à Yom Akipourim, qui est le nom de la fête des expiations. Et à cause de cette similitude, toute la solennité et parfois même la tristesse qui accompagne la fête des expiations est retombée sur la fête de Pourim. Cette fête qui était joyeuse a perdu sa joie. Et cependant, il y a un lien entre ces deux fêtes. Dans la fête des expiations, le pardon était accordé par le Dieu d'en haut. Il donnait son pardon au peuple. La délivrance dans la fête de Pourim, elle vient d'en bas. Elle vient du commun. Elle vient du quotidien. Ces deux fêtes présentent deux aspects de l'amour et de la justice de Dieu. La fête des expiations présente un Dieu transcendant, le Dieu qui est en haut. La fête de Pourim présente le Dieu qui est avec nous, sur nos chemins. Et finalement, nous ne sommes pas loin de ce que Jésus a fait pour nous. On attendait effectivement un Jésus qui allait monter sur un cheval blanc, prendre une couronne, monter une armée et mettre les Romains dehors. On attendait un Jésus extraordinaire, on attendait un Messie glorieux, on attendait un personnage impressionnant. Et voilà qu'on trouve un Galiléen comme tous les autres, avec les mains abîmées par son métier, un homme qui n'attire pas les regards, qui est comme tout le monde. Et cependant, personne dans toute l'humanité n'a pu changer la face de la terre comme cet homme solitaire, qui a vécu 3 ans et demi en public, 30 ans dans son village, à faire de la menuiserie pour ses voisins. On ne l'attendait pas sous cette forme-là. De la même manière, souvent dans notre vie, nous n'attendons pas le Seigneur sous une forme anodine, discrète. Nous l'attendons comme celui qui vient du ciel et qui intervient avec puissance. Et souvent, il intervient comme Jésus précisément, de manière presque à ne pas être reconnu, à ne pas être entendu, à ne pas être vu. Dans le quotidien, dans l'agencement curieux des circonstances, dans le temps de Dieu, dans le temps prophétique de Dieu, mais discret. En fait, le Seigneur nous demande d'ouvrir les yeux de la foi pour le voir là où il est, non pas tant dans les miracles qui attirent les foules, mais dans l'application de son temps au milieu de notre vie. Les personnages, bien entendu, de cette histoire d'Esther représentent dans l'histoire de l'humanité un enseignement intéressant. Le roi Assuérus et son premier ministre Aman, par exemple, sont deux personnages que nous retrouvons ailleurs dans les Écritures. Regardez par exemple dans le livre d'Esther au chapitre 3, la discussion entre Aman et Assuérus. Esther chapitre 3, au verset 8, il est dit ceci. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Cette situation nous rappelle quelque chose que nous connaissons dans le livre de Job. Tournez juste quelques pages et nous retrouvons au livre de Job un scénario semblable. Vous vous en souvenez? Le diable avait lancé un défi à Dieu. Job, chapitre 2, nous lirons à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Là encore, le même défi se retrouve lancé par rapport à Dieu. Un défi pour toucher le peuple de Dieu, ceux qui veulent vivre dans la fidélité. Vous remarquez d'ailleurs que le texte nous donne des indications sur Aman, l'ennemi. En revenant dans le livre d'Esther, au verset où nous étions tout à l'heure, au chapitre 3, au verset 10, il nous est rappelé que Aman, c'est un Agagite, c'est-à-dire un descendant du roi Agag, un Amalécite. Or, les Amalécites sont depuis toujours les ennemis du peuple d'Israël. Vous vous souvenez déjà dans le désert, ils avaient été attaqués par les Amalécites. Il avait fallu que Moïse lève ses bras et garde ses bras levés vers le ciel pour gagner la victoire sur les Amalécites. Les Amalécites, nous les retrouvons dans un contexte que nous connaissons aussi, dans le livre des Nombres, où se trouve là une prophétie que le Nouveau Testament applique bien entendu à Jésus. Mais maintenant, en la relisant dans le contexte d'Esther, vous allez entendre quelque chose de différent. Regardez dans le livre des Nombres, au chapitre 24. Nombres, chapitre 24. Nous retrouvons là cet épisode où Balaam, un soi-disant prophète de Dieu, va servir Balak pour maudire le peuple d'Israël. Vous savez comment l'Éternel va déjouer le complot. Mais il est dit ici, et c'est Balaam qui prophétise, Nombres, chapitre 24, verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit « Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. » Quand vous lisez ce passage, bien entendu, vous pensez à la prophétie messianique qu'il contient. Mais quand on dit « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Esther veut dire étoile. Elle est aussi une reine. Elle va être l'instrument de la délivrance contre Amalek, Aman, le descendant des Amalécites. On retrouve, bien entendu, derrière cette image d'Esther, une image de l'autre étoile, de l'étoile du matin. Cette étoile que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, où il nous est dit au verset 16, Apocalypse chapitre 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Esther devient finalement une image de Jésus. Elle est celle qui va auprès du roi et qui intercède pour son peuple. Elle est celle qui vient pour intercéder pour que son peuple soit délivré, soit épargné de l'ennemi numéro un. C'est exactement ce que Jésus, en fait, fait pour nous devant l'Éternel. Il intercède pour délivrer son peuple. Et son peuple est délivré grâce à l'intercession de l'étoile du matin. Bien entendu, ce scénario va encore trouver des rebondissements dans l'histoire. Dans le livre « Prophètes et rois », je lis ceci à la page 459. Un décret semblable à celui d'Assuérus concernant les Juifs sera promulgué contre le peuple de Dieu. De nos jours, les ennemis de la véritable Église considèrent le petit peuple qui observe le quatrième commandement comme un mardoché à la porte du roi. Le respect que montrent les enfants de Dieu à l'égard de la loi est comme un opprobre continuel adressé à tous ceux qui ont abandonné la crainte de Dieu et foulé aux pieds son saint sabbat. Et un peu plus loin, le grand conflit entre la vérité et l'erreur aura comme enjeu le décalogue. Mais nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à l'issue de ce combat. Aujourd'hui, comme au temps d'Esther, Dieu vengera sa vérité et son peuple. Ce qui s'est passé du temps d'Esther, cette histoire ancienne, se renouvellera à la fin des temps, dans le cadre du grand conflit que nous voyons se préparer sous nos yeux. Parce qu'il faudra aussi un jour éliminer ce peuple qui est un reproche devant le monde à cause de son observation des commandements de Dieu. Mais alors, d'où va venir la délivrance? Nous pourrions peut-être attendre que la délivrance se fasse comme du temps d'Élie, avec le feu qui tombe du ciel, comme du temps de Moïse où la terre s'ouvre pour engloutir les ennemis. Et si Dieu choisissait d'apporter la délivrance comme il l'a apporté du temps d'Esther, c'est-à-dire dans son temps, dans ce qui nous semble être le quotidien de la vie de chacun, le normal, le naturel, l'habituel. Mais lorsque Dieu rentre dans notre quotidien, il n'est plus l'habituel. Il est l'action de Dieu dans nos vies, il est l'action de Dieu dans l'Église. il est l'intervention de Dieu pour délivrer son peuple. Les miracles de Dieu ne seront peut-être pas ceux que nous attendons. Et lorsque nous regardons dans le passé, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir la main de Dieu qui a agi, conduit, retenu, poussé, ouvert, fermé des portes. Mais remarquez, regardez dans vos vies, vous ne vous en rendez compte que longtemps après. Sur le moment, bien souvent, c'est le quotidien, c'est le banal, c'est l'habituel. Et on n'y voit pas la main de Dieu. Dans le silence, Dieu était là. Il était là pour Élie, il était là pour Job, il était là pour Esther, il était là pour son peuple aussi. En fait, dans cette grande controverse, nous sommes invités à prendre notre place. Une place par laquelle Dieu veut faire de nous, là où nous sommes. Des exilés peut-être dans ce monde, mais cependant des porte-paroles. Nous ne sommes pas à l'époque de l'exil de la parole, parce qu'il y a dans ce monde des porte-paroles de la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes invités à prendre notre place dans le grand conflit. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que vous avez été appelés à servir le Seigneur dans son Église. Qui sait ? Amen.